plus profond des ondes. Histoire mystérieuse et extraordinaire, nouvelles et fictions imaginaires, enquête sur d'étranges affaires. Je vous souhaite bien le bonsoir et une oreille attentive. Voici notre programme. Le Titanic et la guerre des dieux, sur un texte de Thierry Namur. Puis vous reprendrez bien un petit peu de matière post-mortem de Didier Van Coverlet. Mais on ouvre l'émission avec un petit peu de musique, avec Manitas de Plata. Le Titanic et la guerre des dieux. Imaginez une nuit sans lune piquetée de milliers d'étoiles surplombant l'océan Atlantique. La mystérieuse déesse Hécate rôde. Elle est la manifestation inquiétante de la lune noire. Un paquebot aveugle a rendez-vous avec son destin. Nous sommes le 14 avril 1912. Le navire, fort connu, c'est le Titanic. Son pavillon est une étoile blanche rayonnante à cinq branches. Il y a peu, son architecte Thomas Andrews a amené sur le bateau son épouse, prénommée Hélène, comme l'héroïne grecque de la guerre de Troie. Ils veulent y observer la comète de Halley, qui est à proximité maximale de la Terre. Cette comète réapparaîtra en 1986, un an après la découverte de l'épave du navire. Dans 2 jours, une éclipse obscurcira le ciel de l'hémisphère nord, et c'est donc sous un décor céleste chargé, n'est-ce pas, une étoile, une comète, une éclipse et une lune noire, que les malheureux passagers du Titanic seront précipités dans les abîmes des eaux glacées de l'Atlantique Nord. Mais pourquoi donc les astres ont-ils ainsi annoncé un événement qui fera finalement peu de victimes par rapport à la grande hécatombe de 1914? Sans doute est-ce parce que l'impact de ce drame vibre encore dans nos mémoires et n'en finit pas de prendre sens. Réputé insubmersible par la presse du siècle, le naufrage du Titanic au petit matin du 15 avril dans une mer calme allait en effet marquer l'entrée du monde dans le XXe siècle, à l'image de 11 septembre pour notre siècle actuel. Le naufrage du Titanic allait en effet marquer le désenchantement d'une humanité qui, jusque-là, avait une foi aveugle dans la technique et le progrès de la science. Aussitôt après la tragédie, et aujourd'hui encore, une littérature fournie a essayé d'expliquer le naufrage. Escroquerie à l'assurance, arrogance humaine, momie maudite embarquée, iceberg chargé, qui servait de sépulture aux Inuits, malédiction sur fond de guerre civile entre catholiques et protestants, en Irlande du Nord, sont quelques-unes des théories avancées. Je propose aujourd'hui une autre approche de la catastrophe. Une approche, comment dirais-je, une approche codée, avec comme point de départ le nom, déjà, du navire. Le Titanic, et comme fil rouge, la guerre des dieux de l'Olympe, chantée par Hésiode dans la Théogonie. Je cite « Et les titans furent précipités dans l'abîme, dans les ténèbres éternelles, ils furent enchaînés par des fers cruels dans les fonds brumeux, le Tartare. » Finalement, la tragédie du Titanic n'est-elle pas le signe annonciateur du lent réveil des dieux? La mythologie grecque a exercé une profonde influence sur le monde occidental, et plus qu'on le croit. Elle offre d'étonnantes similitudes avec les récits du Proche-Orient ancien. De fait, les mythologies indo-européennes ont probablement puisé aux mêmes sources. La mythologie grecque nous conte l'histoire de dieux belliqueux, Zeus, Poséidon, Hadès, les titans, les géants, dotés de pouvoirs fabuleux. La Grèce antique leur a donné un territoire, notre monde, et un domaine, l'Olympe. Ces dieux immortels se font la guerre sous les yeux des hommes impuissants à grands coups d'éclairs, de rochers, d'invisibilité. La Théogonie d'Hésiode voit Zeus, Poséidon et Hadès triompher des titans et des géants qui sont alors précipités dans un abîme sans fond, le Tartare. Témoins du chaos, les hommes de l'Antiquité ont rapporté à travers leurs mythes ce qu'ils ont vu et appris. Ils l'ont fait sans forcément comprendre l'enjeu de ces batailles célestes d'une autre dimension, et ils ont relaté ce qu'ils voyaient avec le filtre des connaissances de leur époque. Il n'en reste pas moins que ces récits épiques et légendaires recèlent une réalité et une vérité. Et c'est bien le plus extraordinaire. Hier comme aujourd'hui, cette autre dimension du monde nous livre encore des signes de sa présence par d'infimes détails. Ainsi, l'indicatif radio du Titanic était MGY et rappelle mythologie grecque. Ce détail, dans le cas de ce désastre maritime, ouvre cette réflexion. Et s'il n'y avait pas de hasard, s'il n'y avait que des rendez-vous avec les dieux, nous allons voir que les éléments invisibles se sont mis en place pour finalement aboutir aux événements tragiques de ce 15 avril 1912. Faut-il en déduire que, pour pouvoir s'exprimer, les dieux ont besoin de configurations temporelles et célestes précises que d'aucuns appellent des synchronicités. Le mois d'avril, mois du naufrage, est le mois d'Aphrodite Vénus. Vénus est encore appelée étoile du matin. Aphrodite est née de l'écume de la mer à Cythère. Le jour dévolu à ce signe est le mardi, jour du naufrage. Edward Smith commandait avec le Titanic son 17e navire. Au tarot, la carte 17, c'est l'étoile. Et le logo de la compagnie est une étoile. Le Titanic appartient à une famille de trois bateaux, commandés et affrétés par la compagnie White Star Line. Les chantiers de Belfast, en Irlande du Nord, réalisent le projet. Ces Sister Ships s'appellent l'Olympique, le fameux Titanic et le Gigantique. Ces merveilles de luxe et de technologie sont conçues pour être le nec plus ultra des navires de croisière de l'époque. Premier né de la série, l'Olympique, du nom de la montagne où trônent les dieux, de la mythologie grecque, navigue de New York vers l'Europe le jour du drame. Le Gigantique, quant à lui, attend dans les cales de Belfast le moment de sa mise à nom. Le nom de Titanic rappelle évidemment les Titans, précipités après 10 ans de lutte contre Zeus et sa bande dans les enfers d'Hadès, le Tartare. Mais la bonne étoile rayonnante de la White Star ne lui a pas porté fortune. Pour son voyage inaugural, le Titanic était commandé par Edward Smith. Ce vieux loup de mer était aussi appelé, comme Poséidon, le roi des tempêtes. Avec les lettres de son nom, on peut écrire parfaitement Thémis ou Métis. Thémis et Métis sont les noms de 2 des 12 titans. Faut-il y voir le signe qu'un titan pilotait le Titanic ? Métis, dont le nom en grec signifie « sagesse », est la mère d'Athéna. Peu avant le drame, le Titanic reçoit, via le Baltique, un message radio l'avertissant du danger des glaces. Cet avertissement est signé du vapeur grec Athinai, Athéna. Gardons notre fil rouge en notant que ce marin très expérimenté avait fait une partie de ses études à l'Etrurie British School. Or Neptune, qui est l'avatar de Poséidon, était étrusque. Un mystère entoure la fin de Smith. Circé, la magicienne, a brouillé les cartes sur sa disparition. Un témoin qui avait navigué avec lui affirme sous serment lui avoir parlé en ville après le naufrage. Tiens, tiens, les titans ne sont-ils pas immortels ? Tandis que le Titanic se dirigeait rapidement en direction de New York, l'Olympique quittait New York et faisait route en sens inverse. Ainsi, on est tenté d'imaginer qu'à travers ces deux géants des mers qui vont à la rencontre l'un de l'autre, c'est la cohorte de l'Olympe qui fonce sur l'armée des Titans dans le but d'en découdre. Poséidon, dieu des océans, se tenait-il à l'affût, dans la nuit froide et d'un coup de son trident a-t-il éventré le Titan ? Le Titanic est coulé par une montagne de glace, certes, mais la symbolique est respectée, puisque l'Olympe est aussi une montagne. La mythologie nous apprend que les titans et les géants tentaient d'occuper l'Olympe et lancer des rochers sur les dieux. Le second, du Californien, essaie vainement d'entrer en contact optique avec le Titanic. Il s'appelle Stone, Rock en français. Le Carpathia, premier arrivé sur les lieux du drame, lance des fusées quand il arrive sur les lieux du sinistre. Son commandant est surnommé l'étincelle électrique. L'arme de Zeus n'est-elle pas l'éclair ? Et Carpathe est le nom d'une montagne d'Europe centrale et son nom signifie pierre. Tous les marins de Carpathia, en remerciement de leur sauvetage, recevront une médaille où l'on voit symbolique appuyé Poséidon ceinturant le navire de ses 2 bras poissons. Avant de présenter la découverte officielle de l'épave par Robert Ballard, arrêtons-nous en 1977. Cette année-là, le navire de guerre britannique, ECAT, localise un grand bateau brisé en 2 parties par 4000 mètres de fond. Cette carcasse est aussitôt reconnue comme étant le Titanic. La découverte est passée sous silence pour cause de guerre froide. ECAT, de la race des Titans, est la terrible déesse première épouse d'Hadès. Encore une fois, le nom du navire nous invite en Grèce. Précisons que ce n'est pas une habitude de la Royal Navy au XXe siècle d'appeler ses bateaux par des noms issus de la mythologie grecque. Il s'agit là d'un fait étonnant. Robert Ballard entreprend donc le projet Titanus qui mènera à la découverte officielle de l'épave en 1985. L'équipe envoie un robot, l'Argo, qui localise précisément l'épave. L'Argo est le nom du bateau de Jason et des Argonautes qui partent à la recherche de la Toison d'Or. C'est d'ailleurs ce qu'explique Ballard. Je cite « J'ai choisi ce nom, l'Argo, en pensant au bateau avec lequel Jason était parti à la conquête de la Toison d'Or. » Ballard, qui je pense ne dit pas tout, décrira la grande carcasse ainsi écrasée comme sous le poids d'un géant. Un an plus tard, M. Ballard lance une seconde expédition avec le bateau Atlantis. L'Atlantis est le nom grec qui nomme le premier titan, dieu roi, à l'origine de toute non-civilisation. Un robot en titane filme le Titanic. Il libère un petit véhicule, le Jason, qui pénètre à l'intérieur et filme le Titanic. En 2001, Cameron filme en 3D le Titanic pour un documentaire. La plateforme de prise de vue s'appelle la Méduse. Et Méduse est l'une des trois gorgones qui pétrifient de son regard. Hécate, Argo, Jason et Méduse sont donc associés à la découverte et l'exploration de l'épave du Titanic. Tous ces noms sont étroitement mêlés à la fois à la mythologie grecque et au Titanic. Qu'est-il donc advenu des deux autres navires jumeaux du Titanic ? Selon la logique présentée dans cet article, le gigantique, le plus grand des trois sisters ships, se réfère à la race des géants, ces fils des dieux qui subirent le même sort que les titans. Il se trouve que ce paquebot fut débaptisé par la compagnie immédiatement après le naufrage du Titanic. Il fut renommé Britannique. Faut-il en déduire que les décideurs de la White Star Line avaient compris le message adressé par les dieux jaloux de l'Olympe ? On ne défie pas impunément les dieux. Le gigantique ne connaîtra jamais de carrière commerciale. Réquisitionné en 1914 par l'armée britannique, il servira de navire hôpital. Marquant la victoire définitive de l'Olympe face au défi de la White Star Line, il coule victime d'une mine ou d'une torpille en 1916, à proximité de l'île de Kea, au cap Sounion, en Grèce. Et c'est ici même, en face du lieu de ce naufrage, que se dresse le temple de qui ? Eh bien, de Poséidon. Du haut de son promontoire, ce monument majeur donné par Zeus pour consoler le dieu de la mer après sa défaite face à Athéna domine la grande épave. Localisé par la Calypso, Calypso c'est une nymphe grecque, du commandant Cousteau en 1975, le bateau est filmé par le submersible grec Tétis en 2001. Tétis est le nom d'une titanide. Ce bateau est à ce jour la plus grande épave des océans. L'Olympique, symbole de l'Olympe, va connaître quant à lui une carrière à l'image des dieux, guerrière, royale et quasiment immortelle. Lancé en 1911, surnommé le roi des mers, il sera considéré avec le Majestic comme le vaisseau amiral de la White Star Line. Son commandant n'est autre qu'Edward Smith. Lors d'une de ses premières traversées, il heurte un des 12 remorqueurs, le nombre de titans, qui le tire pour sortir de la rade de New York. Il perd une pale de son hélice. En 1912, lors de sa cinquième traversée, il éperonne un croiseur nommé Walk, le faucon. Le faucon, citons-le, est l'animal attitré, de la magicienne grecque Circé. Ces avaries seront fatales pour la destinée du Titanic, puisqu'elles retarderont sa construction. Finalement, le commandant Haddock, ou vous préférez Hadès, prend le commandement de l'Olympique et Smith celui du Titanic pour son voyage inaugural. Le 14 avril, averti de la collision, l'Olympique est assez proche du Titanic, reste en contact radio avec son frère. Il rejoint la zone du naufrage et patrouille en vain. Hadès est le terrible gardien du Tartare, où ont été précipités titans et géants. Haddock espère embarquer les naufragés sauvés par le Carpathia, mais son capitaine refuse. L'Olympique traversera la Grande Guerre en transportant des troupes. Il est le seul navire civil à avoir coulé un sous-marin en l'éperonnant en 1918. Décidément, très agressif, en 1924, il heurte le bateau de guerre Fort Saint-Georges. Événement rarissime, il subit en 1929 un séisme sous-marin. Faut-il rappeler que Poséidon, dont le lieu de culte est aussi Olympie, est appelé le maître des tremblements de terre? Entre 1934 et 1935, la compagnie retire du service trois de ses bateaux, l'Olympique, l'Homérique et le Majestique. Ils sont vendus à des démolisseurs, mais des pans entiers de ce bateau prestigieux sont sauvés et ornent encore aujourd'hui des demeures ou des restaurants prestigieux. Cette accumulation de faits insignifiants entourant le Titanic étonne si on en fait la somme. On peut toujours croire que le hasard seul bafoue dans ce naufrage les lois de la probabilité, mais cela ne convainc pas entièrement. Dans le cas du Titanic et de ses sister ships, le hasard en a trop fait. Je préfère expliquer en l'écrivant ici au pluriel la réflexion d'Einstein qui pense que, je cite, « Le hasard est le nom que les dieux prennent quand ils ne veulent pas qu'on les reconnaisse. » On fait une petite pause musicale. Vous êtes sur CFM 90.2 dans l'émission Au plus profond des ondes. Après cette fameuse histoire du Titanic, je vais vous parler maintenant de matérialisation. Tiré du livre de Didier Van Coverlet, le nouveau dictionnaire de l'impossible. Le chapitre s'intitule « Vous reprendrez bien un peu de matière ». Dans le cas de matérialisation d'entité, il est assez facile de distinguer l'incroyable du peu crédible, d'éliminer les élucubrations d'illuminés sincères ou de gourous méthodiques pour ne retenir que les faits les plus documentés, attestés par des sources vérifiables et croisées. Parmi les nombreux témoignages recueillis dans cet esprit par des auteurs aussi rigoureux que Jean Prieur, François Brune et Ernest Bozzano, j'ai choisi quelques exemples particulièrement déstabilisants. Le premier, certifié par le témoignage écrit d'un prêtre et de médecins secouristes, obéit à un enjeu comparable au cas vécu par Marie-France dans l'entrée précédente. Marie-France connu un cas de matérialisation. Je vous en reparlerai. Donc ce cas se situe à Nantes en 1943. Et voilà ce qui se passe. Au milieu de la nuit, un violent coup de sonnette interrompt le bréviaire de l'abbé Paul Labrette, curé d'une paroisse du centre-ville. Il trouve devant sa porte une femme de 40 ans, l'air aux abois. Sous l'occupation, ça n'a rien d'étonnant. Et il invite à entrer si elle est poursuivie par la Gestapo. Mais ce n'est pas le cas. Venez vite, c'est un jeune homme qui va mourir. L'abbé compatit, répond qu'il se rendra à son chevet le lendemain après la messe de 6 heures. Il sera trop tard. Je vous en conjure, monsieur le curé, ne tardez pas. Et elle saisit l'agenda du prêtre, y note 35 rue Descartes, 2e étage. Après l'avoir remercié et béni pour son dévouement, elle repart dans la nuit. Avec un soupir résigné, le père Labrette met son manteau, prend son nécessaire d'extrême onction, son always, et se lance dans les rues désertes. Une patrouille allemande l'arrête, le contrôle laisse continuer son chemin. Rue Descartes, il sonne à l'appartement indiqué. Un jeune homme de 20 ans lui ouvre la porte, surpris mais en pleine forme. Bonsoir, je viens pour le malade en danger de mort. « Vous devez vous tromper d'adresse, mon père. Je vis tout seul ici, et je suis en parfaite santé. Entrez 2 minutes, vous êtes transi. » Le prêtre accepte bien volontiers un grog pour se réchauffer. Sa visiteuse, dans son émotion, a dû se tromper, écrire « Descartes » au lieu de « Départes », une rue encore plus éloignée de son presbytère. Il n'est pas au bout de ses peines. Mais le jeune homme le retient. En fait, il ne va pas aussi bien que ça sur le plan moral. Voilà 2 ans qu'il désire se confesser, avouer à un prêtre les remords qu'il éprouve par rapport à sa mère, mais il n'arrivait pas à se décider. Cette erreur d'adresse est pour lui un hasard providentiel. L'abbé l'écoute, le réconforte, l'absout, le réconcilie avec Dieu et reprend sa route. Arrivé rue Descartes, il découvre avec consternation qu'il n'y a pas de numéro 37. Mais soudain retentissent les sirènes et le fracas d'un bombardement. Le père Labrette n'a que le temps de se précipiter dans le premier abri. À la fin de l'alerte, il remonte à la surface et découvre l'horreur. Façades éventrées, immeubles en feu, hurlements de blessés au milieu des décombres. Il court offrir son aide au poste de secours le plus proche. Donne des soins, des absolutions, administre l'extrême onction à des dizaines d'agonisants. Soudain, au milieu des brouettes de cadavres qu'on ne cesse d'apporter, il reconnaît son hôte de la rue Descartes, ce jeune homme plein de santé qui se réjouissait une heure plus tôt de lui avoir ouvert son cœur et de se sentir enfin en paix avec sa conscience. Très ému, l'abbé Labrette prie aussitôt pour le repos de son âme, mais il se rend compte qu'il ne connaît pas son nom. Avant de lui faire les poches, il raconte son étrange histoire au secouriste, ne voulant pas que l'on le prenne pour un détrousseur de cadavres. Dans le portefeuille du jeune homme, il trouve sa carte d'identité, des tickets de rationnement, une lettre jaunie et des photos. L'une d'elles le fait sursauter. Sans aucune erreur possible, il identifie la belle femme de 40 ans qui est venue réclamer son aide pour le mourant de la rue Descartes. Au dos de la photo, un seul mot. Maman. Le cliché suivant, daté du 8 avril 1939, montre la même dame couchée dans un cercueil. Bouleversé, soutenu par les secouristes, il ouvre la lettre jaunie, compare l'écriture avec celle que sa visiteuse a laissée dans son agenda. C'est bien la même. Bizarre, n'est-ce pas ? Exemple suivant, qui n'a rien d'un cas ponctuel. Il concerne 388 séances publiques de matérialisation d'une défunte. Ouais, rien que ça. Alors, très célèbre aux États-Unis, ces faits sont quasiment inconnus en France. Charles Livermore, un banquier réputé de New York, perd en 1860 son épouse chérie, Estelle. Sceptique, invétéré, il ne croit pas en l'existence d'un au-delà quelconque. Sa vie est brisée, son cœur en dépôt de bilan. Navré de le voir sombrer dans le désespoir, ses amis le pressent de rencontrer la fameuse médium Kate Fox. Par son truchement, se manifestent, disent-ils, de nombreux trépassés qui ont des messages à transmettre. Certains même se matérialisent. Bon, lassé de tant d'insistance, le banquier accepte une séance. Les précautions drastiques qu'il prend, afin de mettre en évidence la supercherie qu'il soupçonne, se retourneront contre lui pour son plus grand bonheur. Il aura perdu ses convictions matérialistes, certes, mais retrouvé son épouse. Du moins son image, son toucher, sa parole et son écriture. Plus de 300 apparitions étalées sur 5 ans de 1861 à 1866, en présence de témoins éminents, entretiendront la flamme de ce financier qui ne peut se résoudre à la séparation physique. La lecture des procès-verbaux de ces séances donne des aigreurs d'estomac à tout rationaliste qui se respecte. En date du 3 novembre 1862, on peut lire par exemple, signé de l'austère banquier, les lignes suivantes. Estelle apparut, le visage caché par ses cheveux dénoués. Pour voir sa figure, je les écartai moi-même de mes mains. Après cela, elle commença à s'élever lentement jusqu'à ce que ses pieds atteignissent la hauteur de ma tête, sur laquelle elle passa en planant, pendant que les bords de sa robe flottante me frôlaient le visage. Bien d'autres comptes rendus de science, à la sensualité méthodique et poignante, diffusent cette ambiance de Kama Sutra posthume, parfois un peu gênant pour les autres participants, qui se contentent de tenir la chandelle ardente. N'était le sérieux des signataires, outre le banquier, lui-même le docteur John Gray, médecin traitant de la disparue, ou encore le célèbre parlementaire socialiste Robert Dale Owen, qui consacra tout un livre à l'affaire Livermore. On se croirait chez les fous. La défunte apparaît graduellement, et parfois en pièces détachées. Elle lévite, passe en un instant de l'état vaporeux à l'état charnel. Son mari la touche, lui caresse les cheveux, dont il certifie conforme la couleur, l'odeur, la texture et le volume. Elle se laisse parfois embrasser. À d'autres moments, elle se dérobe. Non, merci. Son visage est incomplet, il lui manque la bouche. Mais qu'on ne s'y trompe pas, cette morte n'est pas qu'une forme-objet. Elle parle aussi. Et elle s'exprime en français, langue qu'elle possédait parfaitement de son vivant. La plupart du temps, par la bouche de la médium Kate Fox, qui, elle, officiellement, n'en comprend pas un mot. Et elle écrit, en plus. Sa silhouette matérialisée prend fréquemment une plume et trace des phrases, toujours en français. Son écriture posthume sera authentifiée par son veuf et par des graphologues qui ne détectent aucune différence entre les lettres écrites de son vivant et ses post-scriptum de l'au-delà, qui est sa conviction qui demeure aujourd'hui d'ailleurs consultable. Ces séances spirites se déroulent dans l'obscurité totale, mais des globes lumineux sont apportés par un autre fantôme, afin que les vivants puissent bien voir les matérialisations. Le préposé à l'éclairage n'est autre que Benjamin Franklin,
Ah ouais.
Benjamin Franklin, vous savez, le spécialiste de la foudre, inventeur du paratonnerre et le père fondateur des États-Unis, renvoyé sur Terre, semble-t-il, en tant qu'ambassadeur, comme il le fut de son vivant, auprès du gouvernement français. C'est du moins ce qu'affirme la forme ectoplasmique qui lui ressemble, comme une effigie flatteuse. Enfin, quand les conditions météo-électricité statiques le permettent. Lorsque le temps est à l'orage, Benjamin Franklin ne réussit qu'à produire un brouillon de lui-même. Ravi de prendre service en facilitant les contacts entre les deux mondes, le diplomate des Lumières possède en effet l'intéressante faculté de s'assembler. De s'assembler comme un puzzle sous le regard des spirites, afin de leur démontrer, dit-il, combien la matière n'est qu'un jeu d'enfant, pour les esprits un tant soit peu évolué. Après cette preuve, dicte-t-il à la médium, le 30 novembre 1861, le monde pourrait-il douter encore ? C'est pour le convaincre que nous travaillons tellement. Tout cela, mon enfant, est pour l'avantage de l'humanité. De temps en temps, le même Franklin, toujours au fait de l'actualité terrestre, en l'occurrence la guerre de sécession, donne des nouvelles du front. En ce moment, mes chers enfants, écrit-il le 16 février 1862 sous les yeux de son public, nos armées viennent de remporter une grande victoire. Le lendemain, les participants apprennent que, pendant qu'ils causaient aux fantômes, l'armée fédérale a pris d'assaut Fort Donelson sur le fleuve Tennessee. En revanche, les messages délivrés par la défunte Estelle furent toujours d'ordre purement amoureux. Et ces matérialisations cessèrent lorsque son veuf eut retrouvé le goût de vivre sans elle, acceptant de reprendre les rênes de son existence terrestre avant de retrouver pour de bon sa chérie dans l'autre monde. Alors le but de cette incroyable mobilisation de forces occultes était-il simplement, au bout du compte, de remettre en selle un banquier ? Les activités philanthropiques que Charles Livermore déploya par la suite tendraient à accréditer auprès de certains optimistes ce concept oublié d'un spiritisme humanitaire, tel que le défendait Jean Jaurès. Jean Jaurès qui a également pratiqué le spiritisme. Ah oui, c'est étonnant, hein ? Quoi qu'il en soit, dans cet exemple, il s'agit de matérialisation provoquée par les vivants au travers d'une volonté profonde et d'un protocole rigoureux. Mais si une volonté semblable et un même souci de protocole semblent animer leurs partenaires défunts, les travailleurs de la mort, comme les appelait Victor Hugo, lui aussi s'est adonné au spiritisme, rien n'exclut, à mon sens, que ces matérialisations soient imputables aux seules capacités de l'esprit humain. Je ne parle pas forcément de fraude, consciente ou inconsciente. Certes, à la fin de sa vie, la médium Kate Fox, harcelée par sa notoriété, déclara tout à trac qu'elle n'était qu'une simulatrice, mais sans jamais en apporter la preuve, et que personne du reste ne lui demanda. En revanche, on a bien des photographies prouvant qu'Estelle Livermore se matérialisait aussi quand Fox n'était pas là. Il n'empêche qu'un phénomène a été scientifiquement avéré. En 1973, on l'appelle l'intentionnalité constructive. Et on a vu comment des chercheurs, par projection mentale, ont réussi à fabriquer un faux fantôme. En revanche, cette explication rationnelle bat de l'aile dans la rocambolesque affaire du Tristar 310 de la compagnie Eastern. Après le crash mortel de cet avion en 1972, les deux pilotes se matérialisèrent à plusieurs reprises devant des centaines de témoins pour épauler le personnel navigant lors de problèmes techniques. Chaque fois, détail intéressant, il s'agissait d'avions sur lesquels des pièces du Tristar accidentées avaient été recyclées. Maintenant, parlons d'un autre événement. Et l'événement dont je vais parler à présent est assez particulier lui aussi, mais semble-t-il aucun sens. Il n'a absolument aucun sens, aucun but. Ni l'urgence humanitaire, ni le désespoir, ni l'amour, ni le danger, ni l'intervention de médium ne semblent servir de force motrice ou de carburant psychique à ce phénomène. Bon, allons-y. psychothérapeute et musicien de talent, Eric Pigani, également journaliste à Psychologie Magazine, m'a raconté dans le détail cet incident sans queue ni tête qu'il avait évoqué dans l'un de ses livres. Formé au piano par le grand George Cifra, à la fin des années 1980, il passait tous ses week-ends chez lui à Senlis pour travailler sur l'extraordinaire Yamaha de concert installé dans la chapelle royale de Saint-Frambourg, bâtisse du XIIe siècle transformée en garage jusqu'à ce que Cifra, en 1973, la rachète et la restaure pour y installer la fondation qui porte son nom. Bien. Un samedi matin, en 1996, Pigani était en train de déchiffrer des sonates de Mozart quand il entendit des bruits de pas. Il leva les yeux de sa partition. Tiens, tiens, une quarantaine de personnes venaient d'entrer dans la chapelle. C'était inhabituel, ce monument historique n'étant ouvert aux visiteurs qu'à partir de 14 heures. Madame Cifra avait oublié de le prévenir de l'autorisation spéciale accordée à ce groupe. Peut-être. Mais Pigani était perturbé. Autant il aime jouer en public, autant une séance de déchiffrage relève pour lui de l'intime. Il hésita à s'interrompre pour laisser les touristes visiter les lieux, écouter les explications de leur guide. Mais un fait curieux se produisit alors. Le groupe, au lieu d'admirer ce trésor d'architecture, vint s'asseoir aux trois premiers rangs devant le piano pour écouter d'un air gourmand la sonate en cours. Passés les raclements de chaises sur le dallage et les craquements du bois, un silence complet accompagna Mozart. Pigani continua de se concentrer sur ses partitions, essayant d'oublier ces gens qu'il avait dans son champ de vision. Mais l'attention qu'il percevait chez eux était telle qu'il s'efforçait de jouer le mieux possible, comme si ses œuvres faisaient partie depuis longtemps de son répertoire. Et de fait, il n'en revenait pas de l'aisance avec laquelle les accords les plus délicats s'enchaînaient sous ses doigts. Ce récital improvisé dura près d'une heure. Tout à coup, alors qu'il fronçait le nez sur une difficulté de la partition, une sonnerie de téléphone retentit. L'appareil étant installé à l'entrée de la chapelle, Eric, bien sûr, s'arrêta de jouer pour aller répondre. « Excusez-moi, » dit-il machinalement à son public, « mais il n'y avait plus de public. » Captivés par la musique, les stands d'avant, les 40 personnes s'étaient dématérialisées entre deux notes. Suffoqué, le pianiste marcha jusqu'au téléphone qui continuait de sonner. Il découvrit alors qu'il n'était pas branché. Il décrocha tout de même, au point où il en était. Un de ses spectateurs fantômes allait peut-être le complimenter sur sa prestation ou s'excuser pour cette dissolution subite du groupe. Aucune voix, aucune tonalité, le retour à la normale. Avec la perplexité qu'on imagine, Pigani referma le piano, reprit ses partitions et regagna la maison. « Tu tombes bien, » lui dit Madame Cifra. « J'étais justement sur le point de t'appeler. Le déjeuner est prêt. » Cet épisode n'a aucun sens, aucun but, ai-je dit en préambule. Quoique. En écrivant ce récit, je lui trouve soudain une signification évidente. Je repense à Carl Gustav Jung qui raconte que l'année 1916, son domicile fut le théâtre de constants phénomènes de hantise. Coups dans les murs, apparitions vaporeuses, cloches d'entrée qui sonnent toutes seules, couvertures arrachées du lit par des mains invisibles. L'atmosphère était à couper au couteau, écrit-il. La maison entière était comme emplie par une foule, elle était pleine d'esprit. Et puis il s'attelle à son livre. Les 7 serments aux morts, projet qu'il différait depuis longtemps. Et tout ce tapage occulte s'arrête aussitôt. De même, Eric Pigani, au moment où il a reçu la visite de ce public fantôme, hésitait devant l'immense chantier de son livre Psy, une enquête colossale, une somme d'interviews, de témoignages et de réflexions capitales sur tous ces phénomènes défiant la raison. On attend, semblait dire ces groupies de notre monde. À moins que son inconscient, comme celui de Jung, n'ait créé une telle perturbation stimulatrice dans l'intérêt même de l'œuvre en gestation, allez savoir. Un peu comme on déclenche les contractions quand l'accouchement tarde. Ces interprétations, bien sûr, n'engagent que l'auteur, là. Quand j'en ai parlé à Pigani, dit l'auteur, il s'est contenté de sourire. Alors, pour rester dans le domaine musical, je ne peux m'empêcher maintenant de rappeler la situation inverse qui figure dans un procès-verbal enregistré à la préfecture de police de Paris en date du 6 juin 1925. Il s'agit du cas très singulier d'Alphonse Berruyer, ce vieux monsieur décédé depuis 30 ans, qui se serait rematérialisé avec toute sa famille dans son ancien appartement, le temps d'offrir un concert privé à l'étudiant en médecine Jean Romier. Étayé par divers témoignages et une preuve matérielle confondante, cet événement sans précédent, ce prodige apparemment gratuit, eut une conséquence majeure. Au dire d'Albert Einstein, qui s'était passionné pour ce cas, l'affaire Jean Romier a inspiré ses travaux sur les trous de ver, ces raccourcis spatio-temporels qui fascinent aujourd'hui les astrophysiciens et qu'il fut le premier à explorer dans les années 1930. L'invisible nous sauterait-il aux yeux, parfois, pour nous aider à modifier notre point de vue, à ouvrir de nouvelles perspectives ? Allez savoir. Tout est permis. Un petit peu fou, non, tout ça ? Ah ben oui, ça fait cogiter. Évidemment, comme je le répète souvent, si vous êtes un rationaliste convaincu, fermez bien les yeux, circulez, il n'y a rien à voir. Mais si vous êtes un peu plus dans l'investigation comme moi, eh bien, nous resterons sur certaines interrogations, peut-être plus subtiles. Je vous dis la semaine prochaine. Bye bye.
Something stay. This monster of a city takes its toll. Will no one ever hear or heed your call?
Looking for love in a city of angels. Looking for love.